Aujourd'hui, est-ce que nous avons la vision que Dieu veut qu'on ait sur ce monde? Alors, il faut vraiment voir que si on n'a pas... Moi, si j'enlève mes lunettes, je ne saurais pas lire. Et quand on n'a pas la bonne vision adaptée, ça nous empêche de voir beaucoup de choses. Et donc, dans Proverbe 4, versets 20 à 27, il nous est dit « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. On a beaucoup parlé du cœur ce matin dans la louange. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Et donc c'est un beau passage qui nous montre combien c'est important d'avoir un regard clair, de garder nos pas sur la voie qui est droite, la voie du Seigneur. Alors j'aimerais illustrer tout ça par... Il y a 8 objets. Alors mon message n'est pas parfait parce que ce n'est pas 7. Mais tant pis, j'en ai 8, je ne voulais pas en retirer un. Et donc le premier, j'aimerais vous transporter dans le jardin d'Éden. On peut tous imaginer qu'est-ce que c'était le jardin d'Éden. Je pense que quand on fait une peinture, quand on fait une création, on essaie de la rendre la plus belle possible. Et Dieu était vraiment le créateur du jardin d'Éden. Pour lui, c'était celui qui a mis les couleurs, qui a mis les formes, qui a donné les fleurs, qui a donné les arbres. C'est lui qui a ébloui le regard d'Adam et Ève. Imaginez-vous vous réveiller un matin au milieu d'un jardin tel que le jardin d'Éden. Ils pouvaient même s'observer l'un et l'autre, ils se trouvaient beaux, parce qu'ils étaient créatures de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours aussi beau que ça. Et le regard de Dieu, le regard qu'ils avaient, ils ont eu, a été vers la défense, vers ce que Dieu avait défendu. Dieu avait dit, vous ne toucherez pas à cet arbre-là, parce qu'alors vous mourrez. Et automatiquement, quand on défend quelque chose, on le sait avec les enfants, quand on leur défend quelque chose, c'est la première chose qu'ils veulent aller faire. Et nous, on est parfois bien des enfants. Alors dans Genèse 3, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les hommes, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Vos yeux s'ouvriront. Je ne sais pas si j'arriverai à lire avec ça dessous. Alors, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Imaginez-vous, plus le regard est grand, plus on en a envie, n'est-ce pas? On dit qu'avoir les yeux plus grands que le ventre. Et je pense que Adam et Ève, surtout Ève, elle a été tellement tentée parce que le serpent lui avait dit, ce que Satan lui avait dit, qu'elle n'a pas su résister. Et quelle tragédie, cette tentation amène Ève à prendre une mauvaise décision. Elle entraîne Adam dans sa désobéissance aux recommandations de Dieu. Tout à coup, le regard change. Ils découvrent qu'ils sont nus, ils se cachent de Dieu et ils sont dans la peur. On sait que Dieu a lui leur dit, mais où êtes-vous? Il les cherchait, Dieu savait où ils étaient, mais il voulait que l'homme réagisse. Et donc je dirais que la première chose, le regard de la tentation, nous sépare de Dieu. Il nous enlève notre innocence. Malheureusement, Adam et Ève ont perdu cette innocence qu'ils avaient au début. Et ce qui était magnifique a été interdit. On sait qu'ils ont dû sortir du jardin d'Éden et ils n'ont pas pu y retourner. Et on sait que la terre a souffert de cette décision-là. Donc c'était le premier regard de la tentation, avoir des yeux tellement gros devant ce qui nous attire, mais sachant que ce n'est pas toujours la meilleure chose à avoir. Une autre chose, vous savez, on a beaucoup de bricolage dans l'église. J'ai demandé à Didier s'il n'avait pas un rétroviseur. Et il m'en a fait un. Merci Didier. Alors il est parfois nécessaire de ne pas regarder en arrière. Un rétroviseur, c'est pour voir derrière nous, hein, quand on conduit. Si on n'a pas de rétroviseur, c'est très dangereux. C'est utile, mais ce n'est pas toujours utile de regarder en arrière. De laisser le passé pour voir l'avenir. Alors c'est un faux objet quelque part, parce que moi je ne veux pas dire que c'est utile de regarder derrière, je veux dire que ce n'est pas toujours utile de regarder derrière. Donc c'est pour ça que j'ai pris un rétroviseur. Souvenons-nous de Lot et de sa famille. Habitant dans une ville où les hommes étaient vraiment éloignés de Dieu par leur péché, la destruction de la ville était imminente. Mais Abraham a intercédé en faveur des justes de cette ville. Et seuls Lot et sa femme et ses filles purent s'échapper. Et on voit que dans Genèse 19, il est dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Donc il y a tout un dialogue entre Lot et les anges. Ils voulaient cette petite ville là, plus près. Mais on saute un bout et au chapitre 19-26, il est dit « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Et je dirais que le regard en arrière, c'est le deuxième regard, nous paralyse. Si on regarde trop derrière les choses du passé, alors on s'arrête parce qu'on a une certaine crainte et on ne peut pas avancer. Dieu avait donné des instructions très claires à Lot et à sa famille. Mais la tentation du regard en arrière, voir tout ce qui était perdu, certainement qu'ils avaient des amis, ils avaient des possessions, ils avaient plein de choses, a figé sa femme en statue de sel. Et pour nous, voilà, on doit faire attention de ce regard en arrière. Mais ce n'est pas seulement ça que je voulais donner comme histoire pour illustrer ça, c'est aussi le peuple d'Israël dans le pays, le peuple d'Israël dans le désert. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, ils avaient eu la victoire. Mais les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous faire mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse répondit au peuple, ne craignez point. Restez en place. Regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et parfois, le regard en arrière, quand on regarde derrière, on a peur, on est effrayé. On se dit, mais ça nous rattrape. Hein, les Égyptiens les rattrapaient. Et si Dieu n'était pas intervenu, certainement que tout ce peuple aurait subi la guerre avec les Égyptiens. Mais la promesse de l'Éternel, lorsqu'on ne regarde pas derrière, c'est de, voilà, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et un peu plus tard, les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et quelle tragédie encore là de voir que parfois on se tourne derrière, on regarde tout ce qu'on a perdu, on regarde les bonnes choses qu'on avait, mais qui était peu utile pour le Seigneur, parce que devant, il y a encore la provision de Dieu. Et donc, on doit se souvenir que, voilà, l'arrière, il y a des bonnes choses. Et je ne dis pas qu'il faut nier le passé. Je pense qu'il est bon de se souvenir des choses du passé, mais il ne faut pas s'attacher à avoir crainte de perdre quelque chose, parce que l'avenir appartient à l'Éternel. Et il faut toujours se souvenir s'il y a la crainte que l'Éternel combat pour nous, et que nous, on peut garder le silence dans la paix du Seigneur. Alors, serrons cette parole de Dieu dans nos cœurs qui nous dit « Je suis devant vous, je suis l'Éternel qui combat pour nous, qui combat pour toi. » Alors, le prochain, c'est le regard qui nous éblouit. Je parle à montagne. Ce regard qui nous éblouit. Est-ce que vous êtes... Moi, j'habitais en Suisse, dans le Jura, et... Quand j'étais enfant, on avait de la neige du mois de novembre au mois d'avril. Alors on savait s'équiper pour la neige. Et je sortais de ma ferme, et j'arrivais dans les champs blancs. Et la première chose qu'on fait, c'est « Ah, ça éblouit trop ». Quand vous faites du ski à la montagne, vous êtes obligé de cacher vos yeux. Quand vous êtes sur la mer et qu'il y a du soleil, vous êtes obligé de protéger. Ma petite fille qui avait à peine un mois, ils avaient déjà mis des lunettes sur ses yeux pour la protéger parce que, évidemment, à la montagne, c'est très dangereux les yeux des enfants. Donc, voilà la protection pour ce qui illumine, ce qui éblouit. Et là, j'aimerais vous emmener là où Moïse était en train de paître son troupeau, le troupeau de Jéthro. Tout d'un coup, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et donc parfois Dieu veut se révéler à nous d'une manière éblouissante. Des fois, je pense que ça nous saisit et on a envie de se cacher. Mais devant cette splendeur de Dieu, Moïse, il a reçu beaucoup d'instructions. C'est là où il a reçu son appel, c'est là où il a su comprendre ce que Dieu voulait pour lui. Et je pense que dans ce regard que Moïse a eu sur ce buisson, ça lui a révélé quelque chose au plus profond de lui. Et il a dit, me voici. Ce regard qui éblouit, c'est aussi un regard qui nous appelle. C'est un regard qui nous dit, mais viens, je suis tout puissant. On l'a chanté, ça fait parfois peur de dire Dieu trois fois saint. Comment est-ce qu'on peut s'approcher vraiment de ce Dieu trois fois saint? Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes avec nos misères, avec nos faiblesses, avec nos difficultés. Mais Dieu nous donne une protection. Et on peut avoir ce regard ébloui de Dieu et recevoir ce qu'il a à nous donner. Et après, il y a une chose magnifique, parce qu'il est dit en Genèse 33, l'Éternel parlait à Moïse. Comment est-ce que Dieu parlait à Moïse? Face à face, comme un homme parle à son mari. À son âme, pardon. Ah, face à face. Vous êtes déjà regardé dans le miroir? Face à face. Et là, j'ai mon visage, mais j'ai le visage de Dieu face à moi. Et ce face à face, Moïse l'avait avec Dieu. La première fois, il était ébloui, il ne pouvait pas, il voulait se détourner, il se cachait. Mais après, le long du chemin, Moïse a appris à avoir un face à face avec Dieu. Et c'est lui qui illuminait quand il redescendait de la montagne. Il devait se mettre un voile tellement qu'il rayonnait de la présence de Dieu. Et ce face à face, c'est cette intimité profonde que Dieu a avec nous. Le regard face à face de l'intimité avec Dieu nous permet de lui parler comme un homme parle à son ami, de recevoir ses instructions. Et donc, je pensais à ça, je me disais, mais pour Moïse, ces temps avec Dieu étaient comparables à des piles rechargeables. Il brillait tellement qu'il devait mettre un voile sur son visage en présence du peuple. Et donc, je crois que plus on est dans cette présence de Dieu, plus Dieu peut nous illuminer. Et je sais combien de fois mes piles sont basses, combien de fois j'aurais besoin de les remettre en surcharge rapide. Mais Dieu est toujours là pour nous recharger lorsqu'on vient à lui. Et il a toujours de l'énergie pour nous. Nos batteries ne seront jamais finies. Hein, aujourd'hui, on achète des téléphones avec des batteries qui claquent très vite. Mais devant Dieu, nos batteries seront toujours rechargeables. Et il vaut la peine de se mettre à son écoute. J'allais trop vite. Voilà une autre manière de regarder. Dans Ésaïe 43, il est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, et je pourrais mettre chacun de vos noms. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et ça, c'est un autre regard qui est le regard du Père sur nos vies. Lui qui est notre Créateur, il a mis une lumière dans notre corps et dans notre âme et dans notre esprit. C'est ce regard de Dieu qui... Alors j'ai pris ces lunettes d'approche parce que je dirais que Dieu, il a son regard sur nous et il voit en gros nos vies. Il voit tous les petits détails de nos vies, il voit tout ce qui nous chicane. Mais Dieu est là pour nous voir. Et on n'a pas à craindre son regard parce qu'il nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que je t'aime, ne crains rien car je suis avec toi. » Et ça encore, on peut, dans ce regard du Père, on peut se laisser regarder par lui sans crainte. Et on peut avancer. Par contre, notre regard est souvent obscurci. Parfois, on a des cataractes qui nous empêchent de vraiment voir. Et des gros nuages cachent le visage du Père. On a l'impression d'avoir perdu ce regard du Père sur nos vies. C'est comme quand le soleil traverse les nuages, ça nous éblouit, et tout d'un coup, un nuage passe, et pouf, où est le soleil? Il n'est plus là. Mais il y a aussi les choses qui nous empêchent, nous. Il y a des choses que nous devons faire pour laisser le regard du Père nous toucher. Dans Matthieu 6, il est dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ?» Amen. Voilà. Il y a une réaction en nous qu'on doit vraiment laisser Dieu nous aider à avoir un œil clair, nous laisser purifier par son esprit. Et après, il y a une autre chose qui dit dans Matthieu 7, voilà, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et je pense que c'est intéressant parce que vous venez de vue, si vous regardez dans l'autre sens, alors là, moi, je vois tout petit. Et souvent, c'est ce qu'on fait, on regarde un peu à l'envers, puis on n'arrive pas à voir la poutre qui est dans notre œil, mais on voit cette petite paille dans l'œil du voisin. Et Dieu, il nous dit, « Mais non, c'est pas juste. » Il faut déjà enlever ce qui t'obscure, si l'œil, et après tu peux aller aider ton frère. Souvent notre vue est voilée par la poutre dans notre œil. Lorsqu'un ouvrier travaille le bois ou le métal, il doit porter des lunettes de protection. Ah voilà, merci Didier. Je suis prête à travailler. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre des lunettes de protection? C'est pour ne pas recevoir les projectiles. Mais où sont nos lunettes de protection? Quelles sont-elles? Un bon remède, ne pas juger la paille dans l'œil de son frère ou de sa sœur. Un remède de prévention efficace, mais combien souvent difficile d'appliquer. Je pense que souvent le regard critique obstrué d'une poutre, nous sépare de nos frères et sœurs. Et ça, c'est le prochain regard. C'est ce regard de critique qui nous empêche de voir l'autre avec le regard que Jésus a. Et si on regarde chacun en face avec le regard de Jésus, alors on ne verra pas sa paille dans là, mais on verra déjà notre propre poutre et ça va nous aider après à aller vers l'autre. On va passer à un autre regard dans 1 Corinthiens 2, il est dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une haute supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et j'ai pensé pour ça, j'ai sorti ce bandeau. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça fait? Quand vous mettez quelque chose comme ça dans un avion, c'est parce que vous voulez dormir, c'est parce que vous voulez faire silence. Quelque part, ça vous concentre sur vous-même. Et cette sagesse de Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut grappiller comme ça. Mais cette sagesse de Dieu, c'est quelque chose que Dieu fait au profond de notre cœur. Et c'est une révélation du Saint-Esprit. Et il dit ici, ce ne sont pas les choses que l'œil a vues, mais c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Encore là, Dieu veut nous révéler des choses dans nos vies, mais il veut le faire dans cette intimité de cœur à cœur avec nous. Et il veut nous les révéler par son Saint-Esprit. On peut faire beaucoup de discours, on peut, comme il dit ici, hein, ce n'est pas des discours persuasifs ou des grandes manifestations, mais c'est cet Esprit de Dieu qui révèle dans nos cœurs quelque chose qui va nous aider à grandir avec lui dans la communion. Voilà, laissons Dieu ouvrir notre cœur. Et on a aussi chanté beaucoup de chants ce matin de laisser Dieu toucher notre cœur, ouvrir notre cœur, afin de comprendre sa sagesse mystérieuse et cacher ses révélations, son amour. Tout revient toujours à l'amour de Dieu. Dieu veut nous révéler des choses. Et des fois, quand on est à l'hôpital, ils nous font des examens, tout ça. Ils vont chercher ce qui nous fait mal. Et on n'a pas envie. C'est souvent de la souffrance. Hein, quand il y a des maladies où il faut enlever, il faut trancher, il faut couper. C'est jamais facile. Mais quand c'est fait, alors ça donne la guérison. Et je crois que, pour moi, j'aimerais nous encourager à regarder à ce que Dieu peut faire dans nos vies. Des fois, ça peut faire mal. Ça peut nous toucher, ça peut nous faire réagir, mais l'antibiotique de Dieu est toujours suffisant, parce que c'est son amour, c'est sa grâce qui nous fait avancer, qui nous fait trouver le chemin. Voilà, le regard de la sagesse nous ouvre l'esprit. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, le Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ça, c'est le rôle de tout chrétien, de connaître l'espérance qui est attachée à notre appel. On est tous appelés à suivre le Seigneur. On est tous appelés à faire de nos vies un don à Dieu. Mais on ne peut pas le faire nous-mêmes. Mais Dieu veut se révéler à nous pour qu'on puisse vraiment... Et ce bandeau, des fois, nous aide si on se met dans un peu face à face avec Dieu. Alors, il va nous révéler ces choses-là. Et donc, on pourrait dire, mais pourquoi avoir une bonne vue? Comment oser regarder avec confiance l'avenir? Parce qu'on connaît le passé, mais on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce qui est devant nous. Et donc dans 2 Pierre 1, 3 à 10, il est dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir vos vocations et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. » Alors si vous voulez relire ce texte, c'est 2 Pierre 1, 3 à 10. Il y a la recette pour l'avenir. Il y a tous les ingrédients nécessaires pour que... Voilà. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle, il ne voit rien. Donc c'est à nous à travailler, à découvrir l'avenir qui est devant nous. C'est à nous de travailler pour que le Seigneur nous révèle ses plans. Et il y a beaucoup de bonnes choses dans cela, parce qu'en ayant ces choses, en ayant, qu'est-ce qu'il y a, le premier c'est la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour et la charité, l'amour fraternel et l'amour, la charité. Et donc c'est des bons ingrédients à mettre dans nos vies, à nous aider à les appliquer dans ce que nous faisons. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est généreux, ne soyons pas oisifs, ne méprisons pas les promesses de Dieu pour nos vies, purifions-nous de nos péchés afin de vivre une vie épanouie dans la victoire de Dieu. Ça, c'est ce qui est notre appel, c'est ce que Dieu veut pour nous. Dans Hébreux 12, j'aime beaucoup ce passage qui dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut espérer mieux comme avenir ? Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Il n'y a pas un meilleur guide que ce Jésus-Christ. Je crois que le monde nous offre beaucoup de guides actuellement. On peut les trouver dans les journaux, on peut les trouver à la télévision, on peut les trouver partout. Mais le meilleur guide, je crois, que Dieu a laissé sur cette terre, c'est Jésus-Christ, qui, en vue de la joie qui était devant lui, n'a pas regardez en arrière, il a été jusqu'à la croix et il a porté nos péchés pour nous ouvrir le chemin à Dieu. Donc le regard fixé sur Jésus, merci Myriam, nous ouvre le chemin de la victoire sur le péché et nous aide à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et là, on a un tel objectif qui peut nous aider vraiment à fixer notre regard sur Jésus. Si c'est flou, il faut enlever ça, mais je ne peux pas. Si c'est flou, on ne voit pas bien. Mais si on règle notre téléobjectif, alors on aura une photo claire de Jésus. Et Jésus va se révéler à nous dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Voilà. Est-ce que je peux juste résumer quelques regards ? Il y en a 8. Le regard de la tentation nous sépare de Dieu et nous enlève notre innocence. Le regard en arrière nous paralyse. Le regard qui nous éblouit, c'est aussi une découverte de la sainteté de Dieu. Le regard face à face de l'intimité avec Dieu nous permet de lui parler comme un homme parle à son ami et de recevoir ses instructions. Le regard du Père sur notre vie, parce que tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Le regard critique, obstrué d'une poutre, nous sépare de nos frères et sœurs. Le regard de la sagesse nous ouvre l'esprit. le regard fixé sur Jésus nous ouvre le chemin de la victoire sur le péché. Notre cheminement sur la terre est fait de belles vallées, de montagnes, de beaux paysages, des passages sombres, difficiles, mais Dieu a dit, « Je suis l'Éternel, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. » Si les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera. Oh là là. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Et donc, est-ce que nous voulons avoir une vue qui est renouvelée ce matin sur les grâces, sur les compassions, sur la victoire de Jésus-Christ? Mais j'aimerais pas en arrêter là. Je crois qu'on a chanté un jour, mon heure viendra. Alors je te louerai pour des milliers d'années. Enfin, je ne sais plus exactement les paroles. Mais ce jour-là va venir. Et on a commencé par la Genèse avec le jardin d'Éden. Et j'aimerais terminer par ce beau verset du Apocalypse 7, verset 17. Ça, c'est un beau mouchoir de mon papa, un souvenir de mon papa. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Et donc, laissons le passé derrière nous, courons avec persévérance et laissons vraiment l'Esprit de Dieu nous conduire. Mais ayons la certitude que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Toutes les larmes qu'on a pu pleurer, Dieu les connaît. Et ses larmes ne lui sont pas indifférentes. Et donc qu'on puisse vraiment laisser le Seigneur agir dans nos vies. Le dernier, c'est Apocalypse 7, 17. Que ce message vous donne un collier pour vos yeux et illumine votre cœur. Amen. Amen.